Monsieur Douglas Carpenter, bonjour.
Bonjour.
L'Union européenne accompagne depuis plus de 60 ans déjà le développement de la République centrafricaine. Cette relation est-elle toujours au beau fixe?
Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité ici. C'est un grand plaisir. J'ai beaucoup de plaisir d'être affecté en République centrafricaine parce que nous avons à notre disposition plusieurs outils de coopération, c'est-à-dire non seulement les instruments classiques de coopération au développement, mais aussi notre présence humanitaire, la présence de nos missions militaires et civiles, et surtout, je pense, une capacité importante de soutenir les processus dans le pays. Donc, il y a évidemment des défis très importants en République centrafricaine, mais je suis très heureux que on a des outils pour soutenir les Centrafricains à naviguer ces processus. J'espère la stabilité et la paix aussi.
L'EITM a suspendu temporairement sa formation au profit de l'armée centrafricaine. Elle a évoqué l'influence du groupe paramilitaire russe Wagner sur certains bataillons. Y a-t-il une évolution dans ce dossier?
Il n'est pas un secret que l'Union européenne n'est pas confortable d'être complicite avec des groupes qui sont non seulement impliqués dans des exactions importantes, mais qui semblent être sans chaîne de commandement claire, sans redevabilité claire et sans engagement aux normes et aux standards d'état de droit et des droits de l'homme international. Donc, c'est une préoccupation. Mais nous avons dit que la suspension du pilier formation du UTM, nous continuons les discussions avec le gouvernement sur les critères par lesquels on pourrait imaginer de rétablir ce pilier qui est évidemment très important pour le renforcement de capacité des FACA.
En dehors de cet appui à l'armée qui est suspendue, quels sont les autres domaines d'intervention de l'Union européenne en République centrafricaine?
On en a plusieurs. On est sur le point de lancer un nouveau programme jusqu'à la fin, d'ici fin 2024, et je pourrais peut-être juste illustrer les éléments focaux. Nous allons cibler la gouvernance et surtout côté gestion des finances publiques, qui est évidemment très important pour les réformes qui sont actuellement en cours, dirigées par exemple par le ministre Monsieur Ndoba. Nous allons lancer une initiative, un partenariat sur la transition verte, donc tout ce qui est biodiversité, changement climatique. Et là, je veux souligner le fait que la République centrafricaine a vraiment un narratif très positif à partager au niveau mondial. Nous allons continuer aussi avec le développement humain et je veux lancer un programme important d'éducation, y compris sur l'élément décentralisation et sur la santé, parce qu'on a un mandat de soutenir la population. On a 60% de la population qui en a besoin, avec 700 000 déplacés environ. Et il incombe à l'Union européenne de rester dans le secteur humanitaire aussi.
Monsieur, la situation sécuritaire s'est fortement dégradée entre fin décembre 2020 et début 2021 avec l'avènement de la CPC. À ce jour, le gouvernement contrôle visiblement la quasi-totalité du pays grâce à l'appui de ses alliés. Quelle analyse faites-vous de la situation sécuritaire sur le terrain?
Je pense que l'Union européenne n'est pas le mieux placé pour faire une évaluation de la situation sécuritaire à travers le pays. Évidemment, on a d'autres acteurs qui sont des acteurs sécuritaires, la MINUSCA et le gouvernement évidemment aussi. Quand on discute de la stabilité et du contrôle de terrain, ce n'est pas tout simplement une question de quels éléments sont présents dans les villes de province ou sur le terrain. C'est une question de l'activité des citoyens. S'il y a de l'agriculture, des actions d'agriculture qui sont en marche, on peut dire, et l'économie qui fonctionne, et les écoles qui sont ouvertes, et les bâtiments municipaux qui sont ouverts, on peut dire que le contrôle d'État a été rétabli. Mais si on n'a que, par exemple, des gendarmes ou des soldats qui sont à côté de la mairie, mais que les écoles sont fermées, mais que malheureusement il y a des mines dans les champs et l'agriculture n'est pas possible, ce n'est pas vraiment la même chose.
Que fait l'Union européenne dans le domaine de la justice en République centrafricaine?
Pour nous, je pense que la justice, il faut peut-être imaginer une maison où on a plusieurs étages. On a la Cour pénale internationale. Évidemment, ce sont des grands cas pour les crimes contre l'humanité. On a la CPS, donc c'est un cours hybride. On a des cours centrafricains au niveau central, au niveau local. Il faut que tous ces étages font partie de la maison. C'est une question aussi de dialogue politique. Et un élément que nous soulignons, le chef de l'État, Il a dit plusieurs fois, il s'est engagé à lutter contre l'impunité. C'est un engagement qui est pour nous très précieux. Pour assurer que cet engagement soit concrétisé, il faut aussi que toutes les exactions soient investiguées. Et c'est un point très saillant dans le dialogue politique que nous avons, que évidemment je vais essayer de continuer à souligner.
La journée mondiale de la radio est célébrée cette année sous le thème « La radio et la confiance que représente la radio pour vous ».
J'ai passé mon enfance dans une région très périphérique au nord-ouest du Pakistan. Il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de journaux, il n'y avait que la radio. Moi, je suis anglophone et à cette époque, c'était la BBC World Service. Et c'était un peu mon compagnon, mon enfance, c'était la source de toutes mes informations. C'était quelque chose qui m'a donné vraiment beaucoup de soutien moral. Mais il y a une autre chose, vous avez dit la radio, la confiance. On commence avec la crédibilité, la vérification des faits. Et la radio peut être une source, si vous voulez, de faits bien vérifiés, bien crédibles. Avec ces faits, les citoyens, ils ont la possibilité d'exercer le droit de citoyen et le droit démocratique, mais dans le sens plus profond, c'est-à-dire faire des choix sur la base des faits.
La radio reste également le média le mieux écouté en République centrafricaine malgré l'évolution des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Pensez-vous qu'elle demeure un vecteur de stabilité, de cohésion sociale?
La radio est un élément important de solidarité communautaire. En même temps, malheureusement, l'histoire nous a enseigné que la radio peut aussi être un catalyseur de violence, un catalyseur d'incitation à la haine. Et donc, ce n'est pas tout simplement une question de la diffusion dans le sens technique, c'est une question aussi de la qualité de l'équipe. Et enfin, la radio, ce n'est que des êtres humains.
Mais la désinformation et les rumeurs prennent de l'ampleur en République centrafricaine. Que fait l'Union européenne dans le cadre de lutte contre ce fléau?
Nous avons soutenu des projets spécifiques dans le cadre de fact-checking. Il y a des moments où il faut réagir avec des clarifications factuelles que l'Union européenne, par exemple, fait ça mais ne fait pas ça. Et il y a des moments où, honnêtement, il faut rester silent. Il faut toujours commencer avec les faits et bâtir, si vous voulez, construire les narratifs sur les faits et pas en sens contraire.
Pour vous, quel rôle les médias doivent-ils jouer pour lutter efficacement contre les rumeurs et les fausses informations?
Les médias ont le droit de préserver et de protéger leur indépendance. On est aussi résilient contre les fake news. Il y a tout un processus de contrôle de qualité, de formation, et je pense aussi qu'il est très important d'avoir une solidarité dans la profession. La profession est souvent, à travers le monde, y compris dans l'Union européenne, avec cette solidarité, ils encouragent la poursuite d'excellence dans la profession et aussi de développer évidemment les formations. Et là, l'Union européenne est tout à fait prête à soutenir.
Monsieur, la pandémie de COVID-19 demeure un vrai problème de santé publique mondiale. Cependant, la République centrafricaine est encore en marge du cap fixé par l'OMS pour la vaccination des populations. Elle est à environ 10% du taux de vaccination de sa population. Cette situation préoccupe l'Union européenne?
Honnêtement, cela me préoccupe beaucoup. L'Union européenne était parmi les plus grands bailleurs de fonds mondiaux au COVAX, ici en République centrafricaine. C'est un pays qui est plus grand que la France. Il y a beaucoup plus de travail à faire, mais cela doit être fait en partenariat avec les autorités. Il faut juste une base solide, logistique. On ne peut pas vraiment séparer ce défi d'un défi plus large de décentralisation dans le pays.
Les élections régionales sont prévues en septembre prochain. Quelle sera la part de contribution de l'Union européenne dans l'organisation de cet exercice démocratique qui ne s'est pas tenu depuis plus de 30 ans?
On n'évalue pas des élections sur la base de ce qui se passe aux urnes. Il y a plusieurs critères, crédibilité, transparence, inclusivité. Tous ces éléments doivent être pris en compte. On est en discussion, on est en dialogue avec le gouvernement. Il faut une atmosphère qui est apaisée et stabilisée. On doit évidemment avoir une stratégie sécuritaire pour les élections. On doit avoir aussi une stratégie de décentralisation. Parce que sans avoir une décentralisation, il y a une question aussi de tirer les enseignements du cycle précédent. Pour moi, tous ces éléments sont actuellement pertinents. Et on va juger, évidemment, sur la base de la situation, comment soutenir le processus. Et c'est une discussion continue.
Monsieur Douglas Carpenter, merci.
Merci beaucoup.